Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du mercredi 29 novembre 2023. Avec vous, Eric Manilakiza. D'abord les titres. Une attaque djihadiste massive repoussée par l'armée burkinabé à Djibo.
Il y a des gens même qu'on a fait toucher et puis aujourd'hui. Et ça, on a vu la scène actuellement, moi, je suis dans la psychologie.
La justice malienne ouvre une enquête judiciaire contre des chefs d'Al-Qaïda et des séparatistes Touareg pour terrorisme. L'armée sénégalaise réalise l'une de ses plus grandes saisies de cocaïne, plus de 3 tonnes interceptées sur un navire au large de Dakar. Campagne électorale en RDC, incidents sécuritaires et blocage d'autorisation pour l'observation de l'Union européenne. Un candidat s'exprime.
Je suis désolé pour M. Katumbi et je dénonce cet incident. Et il faudra qu'on établisse la vérité. Qui est responsable, c'est le pouvoir politique ou c'est des concurrents.
Des inondations tragiques au Kenya, une centaine de décès et les autorités mobilisées pour secourir les sinistrés. Israël, Hamas, nouvelle libération d'otages et de prisonniers au cinquième jour de trêve. Le 39e président des États-Unis, Jimmy Carter, honore sa femme Rosalynn Carter lors d'un dernier hommage à Atlanta avec la participation du président Biden. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Une attaque djihadiste massive contre une base militaire dimanche à Djibo, dans le nord du Burkina Faso, a coûté la vie à au moins 40 civils, selon l'annonce faite hier par l'ONU. Lionel Lunanira Gahima.
Un habitant de Djibo a fait état sur VO Afrique d'assaillants venus massivement à bord de motos et véhicules pick-ups. Ils ont effectué des tirs sur les civils et ont égorgé des personnes, incendié des maisons et des magasins. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme se dit atterré. Selon l'ONU, un grand nombre de combattants du groupe de soutien à l'islam a attaqué une base militaire, des maisons et les camps des déplacés dans la ville de Djibo, tuant au moins 40 civils et fait plus de 42 blessés. Selon une source sécuritaire, l'attaque a débuté vers 15h dimanche et a été menée par plusieurs centaines d'hommes armés qui ont tenté en vain de pénétrer dans la base. L'attaque a été menée par plusieurs vagues pendant plus de 3h. Selon l'agence d'information du Burkina Faso, plus de 400 terroristes ont été décimés dans la contre-offensive de l'armée contre près de 3000 criminels qui ont tenté de s'emparer de Djibo.
La justice malienne a lancé mardi soir une enquête ciblant des chefs locaux d'Al-Qaïda et des séparatistes Touareg pour des motifs incluant actes de terrorisme, financement du terrorisme et détention illégale d'armes et de guerre. Parmi les personnes visées, on retrouve des figures comme Yag Agali, chef au Mali du groupe de soutien à l'islam et musulman Alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda, le prédicateur Paul Amadou Barry, alias Amadou Koufa, dirigeant de la Katiba Massina, ainsi que 6 responsables séparatistes et Touareg. Ces actions interviennent dans un contexte de dégradation sécuritaire dans le nord du Mali. Lors d'une opération au large de Dakar, l'armée sénégalaise a intercepté un navire transportant plus de 3 tonnes de cocaïne, constituant l'une des prises les plus importantes dans le pays. Michel Claire-Joseph.
Un patrouilleur de la marine a saisi près de 3 tonnes de cocaïne pure à bord d'un navire intercepté à 150 km au large de Dakar, a annoncé la marine sénégalaise. La cargaison saisie contient 2 975 tonnes de cocaïne, a précisé un responsable militaire sénégalais sous couvert de l'anonymat. Les autorités n'ont pas encore communiqué sur la provenance de l'embarcation, de l'équipage et la valeur de la cargaison interceptée. Plus de 800 kilos de cocaïne ont déjà été saisis en janvier sur un navire au large de Dakar. Les douanes sénégalaises ont aussi annoncé en octobre 2022 la saisie de 300 kilogrammes de cocaïne d'une valeur de près de 37 millions d'euros dans un camion frigorifique en provenance du Mali voisin. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, entre 2019 et 2022, au moins 57 tonnes de cocaïne ont été saisies en Afrique de l'Ouest ou en route vers cette région, dont plus de 16 tonnes au Cap-Vert, 4,7 tonnes au Sénégal et 3,9 tonnes au Bénin.
Un membre du parti de l'opposant et candidat à la présidentielle Moïse Katumbi a été tué mardi dans l'est de la RDC dans des affrontements avec des partisans du parti au pouvoir, selon le porte-parole de Ensemble pour la République. Avocat et père de 6 enfants, Dido Kasingi, président de la jeunesse au sein de son parti, a été victime de l'attaque contre le cortège de Katumbi à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, lors de sa campagne électorale. Le président sortant Félix Tshisekedi est arrivé dans la soirée à Bunia, dans la province de l'Ituri, dans le nord-est du pays. Les inondations au Kenya ont causé la mort d'une centaine de personnes, provoquant des ravages dans plusieurs régions du pays. Les autorités lancent des efforts pour venir en aide aux sinistrés. Mohamedou Oumfa.
Selon la présidence kényane, les précipitations au-dessus de la normale ont provoqué des inondations à grande échelle qui malheureusement ont entraîné des pertes en vies humaines, le déplacement de familles, l'apparition de foyers épidémiques, la destruction d'infrastructures et de biens. Plus de 89 000 familles ont été déplacées et sont réfugiées dans 112 camps, a précisé dans un communiqué Raymond Omolo, un responsable du ministère de l'Intérieur. Le président William Ruto a tenu lundi une réunion de son gouvernement et s'est engagé à débourser un fonds d'urgence pour venir en aide aux sinistrés. Le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie sont balayés depuis plusieurs semaines par des pluies torrentielles liées au phénomène météorologique El Niño dans la foulée d'une des pires sécheresses enregistrées dans cette région de la Corne de l'Afrique depuis 40 ans.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La trêve entre Israël et le Hamas, désormais dans sa 6e journée d'un nouvel échange impliquant des otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. En parallèle, les médiateurs internationaux redoublent d'efforts pour obtenir un cessez-le-feu plus durable. Nanit Talan.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, salue une lueur d'espoir et d'humanité au milieu des ténèbres de la guerre, avec la prolongation de la trêve pour 48 heures visant la libération de 20 otages du Hamas et 60 prisonniers palestiniens supplémentaires. Depuis vendredi, le Hamas relâche une dizaine de femmes et d'enfants contre la libération de 3 fois plus de prisonniers palestiniens. Mardi soir, 12 otages et 30 prisonniers palestiniens ont ainsi été libérés. Un nouveau groupe d'otages a été relâché à Gaza mardi en échange de la libération de 30 Palestiniens emprisonnés par Israël suivant la prolongation de la trêve pour 48 heures. L'accord de trêve, soutenu par l'Égypte et les États-Unis, a déjà permis la libération de 60 otages israéliens et de 180 Palestiniens. Par ailleurs, le premier avion militaire américain chargé d'aide pour la bande de Gaza est arrivé hier mardi en Égypte, soulignant la volonté de Washington de répondre à la crise humanitaire dans le territoire palestinien en guerre.
Ici aux États-Unis, l'ancien président Jimmy Carter a rendu hier à Atlanta un dernier hommage à sa femme Rosalynn Carter en présence du président Joe Biden. L'ancienne première dame est décédée il y a une semaine à l'âge de 96 ans. Jean-Roger Bion.
L'ancien président de 99 ans, traité en soins palliatifs depuis février, est arrivé dans l'église, poussé dans un fauteuil roulant pour l'une de ses très rares apparitions publiques récentes. Il a été placé au premier rang aux côtés du président Joe Biden, de l'ancien président Bill Clinton et des 5 premières dames américaines encore vivantes, Jill Biden, Laura Bush, Hillary Clinton, Michelle Obama et Melania Trump, ainsi que des 11 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants de Rosalynn Carter. Jimmy et Rosalynn Carter se sont mariés en 1946 et ont formé un couple inséparable. Rosalynn Carter est décédée le 19 novembre, 2 jours après être entrée en soins palliatifs dans la maison du couple à Plains, dans l'État de Géorgie. Lundi, la population a pu se recueillir devant son cercueil, installé à la bibliothèque présidentielle Carter d'Atlanta. Les funérailles auront lieu aujourd'hui dans un cadre plus intime dans le petit village de Plains, où le couple a vécu pendant des décennies sous les yeux de l'ancien président le plus âgé de l'histoire.
L'espérance de vie des Américains est remontée en 2022 après 2 ans de forte baisse, sans pour autant retrouver son niveau d'avant la pandémie de COVID-19, selon les autorités sanitaires mercredi. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Alexandrine Relognon.
L'armée sénégalaise a saisi près de 3 tonnes de cocaïne sur un navire arraisonné au large du Sénégal. Plus de 800 kg de cocaïne avaient été saisis en janvier sur un navire au large de Dakar par la marine sénégalaise. Les douanes sénégalaises avaient aussi annoncé en octobre 2022 la saisie de 300 kg de cocaïne d'une valeur de près de 37 millions d'euros dans un camion frigorifique en provenance du Mali voisin. Les commerces aux États-Unis annoncent un bon début de la saison des achats de Noël. Plus de 200 millions de personnes se sont rendues dans les magasins et ont fait des achats en ligne au cours du Black Friday et le Cyber Monday, tous deux connus pour leur promotion importante destinée à inciter les consommateurs à dépenser massivement pour leurs cadeaux. La Fédération nationale du commerce de détail estime à 200,4 millions le nombre total de personnes ayant participé à ces 5 jours, soit près de 4 millions de plus qu'il y a un an. Le dollar américain est tombé à son plus bas niveau depuis 3 mois mardi, les investisseurs continuant à penser que la croissance de la première économie mondiale commence à ralentir après un cycle de resserrement agressif depuis mars dernier. Ce ralentissement devrait inciter la Réserve fédérale à commencer à assouplir sa politique monétaire dans le courant de l'année prochaine. Les contrats à terme sur les taux américains évaluaient à 23% la probabilité d'une baisse des taux en mars, puis à environ 50% en mai, selon l'outil FedWatch.
Et nous enchaînons directement avec votre page des sports, Yacouba Ouédraogo, avec nous. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le Mali s'incline en demi-finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans.
Oui, les jeunes maliens sont tombés 1-2 devant la France. Le Mali avait pourtant ouvert le score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps par Ibrahim Diarra, avant de concéder 2 buts en début de seconde partie à la 56e et à la 69e. Dans l'autre demi-finale, l'Allemagne s'est imposée au tir au but face à l'Argentine, 4 tirs réussis contre 2, après un score de 3 buts partout à l'issue du temps réglementaire. La finale va se disputer entre la France et l'Allemagne le 2 décembre, mais bien avant, le Mali affronte l'Argentine le 1er décembre lors du match de classement.
Et suite au mercredi soir, des matchs de la 5e journée en Ligue des Champions.
Manchester United ne doit pas perdre en Turquie contre Galatasaray pour éviter une élimination. En Europe, les Red Devils ont concédé 3 défaites en 4 matchs. Dans l'autre match de cette poule, qualifié pour les 8e de finale avec la première place du groupe déjà assurée, le Bayern Munich veut poursuivre sa série de 17 victoires consécutives en phase de groupe de l'épreuve continentale contre Copenhague. Lens doit réaliser un nouvel exploit contre Arsenal pour espérer voir le tour suivant. Avec leur victoire de la journée précédente contre le FC Séville, les Gunners, 9 points, sont tout proches de la qualification. Un match nul suffirait aux Londoniens pour filer en 8e, désormais dirigé par Walter Mazzarri. Après le limogeage de Rudy Garcia il y a plus de 10 jours, Naples du Nigérien Victor Osimhen et du Camerounais Frank Zambo Anguissa affrontent le Real Madrid déjà qualifié pour les 8e.
Yacouba, les exclusions temporaires vont être mises à l'essai chez les pros.
L'IFAB, gardien des lois du jeu, a recommandé la mise à l'essai des exclusions temporaires dans le football professionnel lors de sa réunion annuelle à Londres. En 2017, l'International Football Association Board a validé la mise en pratique d'exclusions temporaires dans le but d'apaiser d'éventuelles tensions sur le terrain et d'améliorer le fair play dans les catégories amateurs, de jeunes ou vétérans, ou encore pour personnes handicapées sous réserve d'approbation de chaque fédération nationale et confédération. En France, l'expulsion temporaire, à savoir un carton blanc infligé au contrevenant, sommé d'aller se calmer pendant 10 minutes, est en vigueur depuis 2018 dans les compétitions amateurs. Les membres du conseil d'administration de l'IFAB ont également soutenu une proposition qui sera mise à l'essai selon laquelle seul le capitaine de l'équipe pourrait approcher l'arbitre dans certaines situations de jeu. L'ensemble de ces propositions seront examinées lors de l'Assemblée générale annuelle de l'instance à Glasgow en mars 2024.
C'était les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manuakiza de retour avec vous pour les dossiers du jour. Des djihadistes ont mené dimanche une attaque d'envergure contre un détachement de l'armée à Djibo dans le nord du Burkina Faso. Selon l'agence d'information du Faso, la contre-offensive des forces armées burkinabées a résulté en la neutralisation de plus de 400 terroristes, parmi les quelques 3000 individus ayant attaqué la ville. Les autorités ont mentionné que quelques soldats ont perdu la vie en défendant Djibo, sans fournir de détails chiffrés sur ses pertes. Yacouba Ouedraogo a recueilli le témoignage d'un résident de Djibo, joint sur place, mais qui a voulu garder l'anonymat pour des raisons de sécurité.
Moi, je suis arrivé au centre-ville. Vers les 15 heures, on attendait des tirs vers le nord. Comme d'habitude, chacun se cherchait et puis chacun est rentré chez soi. D'habitude, il y a des tirs et puis en temps, bon, ça sort et puis bon, c'est fini. Mais ça a duré près de 30 minutes et puis bon, voilà. Parce que c'était vers le nord, en temps, on entendait vers le sud et puis on s'est enfermé. Malheureusement, toute la ville était encerclée.
Djibo était encerclée par qui?
Djibo était encerclée par les terroristes. Ils sont venus avec un nombre très important parce que, quelle que soit ta maison, là où tu habites, l'est, de l'ouest, du nord, du sud, tout ce qui est même au centre-ville, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas vu ou senti la présence de ces terroristes. J'étais chez moi, j'étais sur la route et puis bon, ils passaient avec des tricycles, des grosses motos. Et même des véhicules. Oui, les terroristes chantaient Allah Akbar, ils ont dit, on est rentré aujourd'hui, on va tous les égorger. On nous a dit de rentrer maison par maison pour les égorger tous. Tout ce qui est homme, on égorge.
Est-ce que vous sentez en sécurité à Djibo présentement?
À Djibo, si on dit qu'on se sent en sécurité, on a menti. Parce que même hier, vers les 7h, il y a eu des tirs encore pour dire qu'ils ont retenti. Et malheureusement, quand je suis sorti, après les tirs, vers les 9h, je voyais que la maison de mon voisin était brûlée. Et malheureusement, dans le marché, il y a eu des gens qu'on a brûlé leur maison et malheureusement, ils sont restés.
Qui a brûlé?
Et encore les terroristes également.
Dans la ville de Djibo?
Dans la ville de Djibo, puisqu'ils ont brûlé certains dans leur maison parce qu'il y avait les réfugiés, les PDI qui sont venus. Les humanitaires ont fait des tentes pour eux. Il y a un site, ils ont brûlé beaucoup de gens.
Est-ce que l'armée est dans la ville de Djibo?
Oui, effectivement, on sent la présence de l'armée. Ils sont venus avec un homme très important parce que c'est vrai qu'on était là depuis le début, mais pour cette attaque-là, sincèrement, on n'a jamais vu ce nombre-là. Il était beaucoup. Malheureusement, il y a des gens même qu'on a fait toucher et puis égorger. Et quand on a vu la scène actuellement, moi, je suis dans la psychose.
Des civils ou des militaires?
Des civils qu'on a égorgés. C'est beaucoup de choses qu'on a cachées également.
Quel est l'état actuellement à Djibo? Tout le monde est rentré chez soi?
Oh, le marché a été également incendié. La plupart, donc la partie du marché a été incendiée. Donc du coup, si toutefois le convoi ne vient pas dans ces jours à venir, ça sera vraiment catastrophique parce qu'il n'y avait rien. Et actuellement, comme on a brûlé les magasins, on a brûlé les boutiques lors de l'attaque du dimanche.
Un habitant de la ville de Djibo, dans le nord du Burkina Faso.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Les élections régionales et législatives prévues au Togo pour le premier trimestre 2024 suscitent des inquiétudes dans l'opposition, qui dénonce des irrégularités sur le recensement et le découpage électoral. De Lomé, notre correspondant, Kossi Woussou.
Programmées pour se tenir en principe cette année, les élections régionales et législatives se tiendront finalement au premier trimestre 2024. Se basant sur les conclusions de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a jugé le fichier électoral suffisamment fiable, le gouvernement estime que la balle est dans le camp de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Kuigan Yawa, la porte-parole du gouvernement.
Il appartient désormais à la Commission électorale nationale indépendante de proposer un chronogramme pour l'organisation des élections régionales et législatives. Le président de la République a instruit le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures pour permettre d'organiser les prochaines élections au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année 2024.
Pour ces scrutins, les partis de l'opposition dénoncent certaines irrégularités liées au recensement des électeurs et le découpage électoral qui défavorise certaines régions. Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement.
En vérité, quand on regarde un peu le quotient de représentativité, un député de la région maritime représente 141 000 personnes. Mais dans les plateaux, un député représente simplement 65 000 personnes. Vous prenez la région de la Kara, 57 000, ça fait environ le tiers. Mais d'où vient que le régime arrive facilement à nous imposer ce scandale?
Innocent Kagbara, président du Parti démocratique panafricain, estime que la polémique sur le découpage électoral est vaine, car il ne peut satisfaire tout le monde.
Vous ne pourrez jamais trouver une solution qui puisse agréer tout le monde. Sur quelle base vous considérez que ceux qui sont de telle région du pays, ou bien si le président du parti est de telle région du pays, donc ils vont gagner dans telle région, et dans telle autre région, vous êtes peut-être majoritaire, ou bien vous êtes originaire, vous allez gagner dans telle région. Là, ça pose un problème. Là, votre parti n'est pas national. Si vous êtes un parti national, mais vous êtes capable de gagner.
Alphonse Pogo de l'ANC indique que le découpage est délibérément conçu pour dévoyer les élections législatives au profit du pouvoir en place. Il veut que le gouvernement revienne aux standards internationaux en la matière.
Que le Togo s'affranchisse du carcan des mauvaises pratiques électorales en respectant enfin le principe d'une personne, un vote. Le vote d'un électeur doit être égal au vote d'un autre. La délimitation des circonscriptions électorales et la méthode d'allocation des sièges ne doit pas aboutir à une distorsion de la distribution des électeurs.
L'enjeu des législatives sera surtout la participation des partis de l'opposition pour leur retour à l'Assemblée nationale, car ils avaient boycotté le scrutin en 2018. Kossi Woussou, Lomé, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Des incidents sécuritaires marquent la campagne électorale en République démocratique du Congo, tandis que la mission d'observation électorale de l'Union européenne attend toujours l'autorisation des autorités pour observer le scrutin. Eddy Issango a joint à Kinshasa l'un des candidats à la présidentielle, l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito.
Nous avons commencé d'abord par présenter notre programme, notre offre politique auprès du peuple congolais à travers des radios nationales et la radio internationale aussi. Et donc après cette étape-là, nous allons voyager à travers le pays en commençant par la ville de Kinshasa qui est le chef-lieu ou la capitale de la RDC.
D'autres candidats connaissent des problèmes. Il semble qu'il y a un cas de décès à Kindu même où l'un de vos compétiteurs, Moïse Katumbi, a connu un problème. On parle des cas de décès. Vous n'avez pas de problème comme ça de sécurité?
Je n'ai pas connu ce problème à ces jours. Je suis désolé pour M. Katumbi et je dénonce cet incident. Et il faudra qu'on établisse la vérité. Qui est responsable, c'est le pouvoir politique ou c'est des concurrents?
D'autres candidats se plaignent de sécurité par rapport à la garde qui devait vous être accordée. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Vous avez eu la garde suffisamment et vous pensez que c'est équitable pour tout le monde?
Oui, si les principes ils l'ont appliqué pour tout le monde, mais moi j'ai pas voulu garder ces services de sécurité étant donné que chez nous les services de sécurité intérieure comme extérieure ont eu des problèmes de revenus, de paiement, de prise en charge de l'État. Et je serai obligé de suppléer, ce qui n'est pas possible avec mes ressources actuelles de campagne.
À 3 semaines des élections, on a enregistré des désistements et même des ralliements du côté de l'opposition. Vous êtes de l'opposition. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous allez vous continuer? Est-ce que vous avez des démarches pour que d'autres se rallient à vous? Comment ça se passe?
Oui, bon, moi, je ne veux pas qu'on se rallie à moi parce qu'on veut me soutenir. Il faut soutenir mon programme. C'est lui qui vient avec un programme dont on aura débattu et qui ressemble au mien, qui veut soutenir mon projet et en association avec le chef, je suis très content. Je ne veux pas des alliances de personnes, je veux des alliances liées au programme, aux visions sociétales. C'est ça qui m'intéresse, pour que nous allions ensemble pour former une majorité sur fond idéologique et pragmatique. La question n'est pas d'être président sortant ou président entrant, la question ce sont les visions politiques.
Certaines personnes et organisations ont encore un peu de doute quant à la tenue des élections au 20 décembre. Nous apprenons qu'il y aurait même des tractations parce que la mission d'observation européenne pourrait peut-être se retirer. Qu'est-ce que vous en dites?
Je suis désolé, j'aurais aimé que la communauté internationale, avec principalement l'Union européenne, suivent les élections et remplissent la mission de témoins d'observateurs. Maintenant qu'ils se retirent, je suis désolé, ça va poser un problème. Mais j'espère que d'ici là, la CENI va nous fixer. Et si réellement elle a des difficultés pour mobiliser les ressources pour la suite du processus, nous le saurons et nous donnerons notre opinion là-dessus.
Adolphe Muzito, un des 24 candidats à la présidentielle du 20 décembre en RDC.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso appelle la justice à établir les responsabilités dans le drame du stade d'Ornano où 32 jeunes Congolais ont perdu la vie tout en abordant la question de l'avenir des jeunes lors de la commémoration de la proclamation de la République du Congo le 28 novembre 1958. Cependant, certaines voix estiment que son discours n'a pas apporté la réassurance attendue. De Brazzaville, la correspondance d'Arsène Séverin.
C'est un Sassou Nguesso sobre, costume bleu et cravate violette qui est apparu devant les parlementaires à qui il a demandé d'observer une minute de silence en mémoire des 32 jeunes tués dans une bousculade devant un bureau de recrutement de l'armée.
Il nous faut analyser froidement les circonstances de cette effroyable tragédie afin de situer pour l'histoire toutes les responsabilités et pour l'avenir, tirer les enseignements et les leçons utiles. Ce triste événement nous renvoie à la problématique cruciale de l'avenir de notre jeunesse.
Dans les quartiers de Brazzaville, les réactions ne se sont pas fait attendre. Megzan Animba, président du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme.
Je suis resté avec un sentiment de frustration. Le président Sassou est là depuis 1979 avec un intermède de 5 ans en 92. Et donc il est responsable de la situation de désespoir de la jeunesse qui est consécutive à ses politiques hasardeuses depuis 40 ans. Je m'attendais qu'il fasse comme il a fait à la conférence nationale, il a assumé pour lui et pour ses prédécesseurs.
Pour Vivien Manango, coordonnateur national de Debout pour le Congo DPC, le chef de l'État aurait pu pousser les jeunes vers le secteur privé en accélérant en même temps la diversification de l'économie.
Alors que ce que nous voulons, nous, c'est des pistes qui renvoient à des emplois marchands, c'est-à-dire des emplois qui seront créés par le secteur privé. Et de ce point de vue, il n'y a rien eu sous le soleil. Au contraire, le président a acté l'échec de la diversification de l'économie. Et si nous avons une économie qui n'est pas diversifiée, une économie qui repose essentiellement sur la rente du pétrole, comme le président semble l'avoir acté, aujourd'hui ne crée pas d'emploi ou presque rien.
Par ailleurs, le président Sassou Nguesso a annoncé de bonnes perspectives de l'économie congolaise qui va démarrer l'année 2024 avec un taux de croissance de 4% du PIB. Clément Mirassa, ancien ministre du Commerce, est ici en sa qualité d'économiste statisticien.
Le programme avec le Fonds monétaire international ne développera pas le Congo, ne sortira pas le Congo de la crise multidimensionnelle dans laquelle il est plongé et dans laquelle ce sont les responsables, les gouverneurs actuels qui l'y ont plongé. Donc ce discours suit une logique simple. On a choisi de protéger ceux qui se sont enrichis, ceux qui sont à la base de la souffrance des Congolais.
Denis Sassou Nguesso a délivré ce message à l'occasion des 65 ans de la proclamation de la République du Congo le 28 novembre 1958. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui avec Eric Manirakiza, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Georges et Léonard Sagnon a assuré la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.